Ce Dieu puissant que je vois sur le mont Sinaï libérant son peuple d'Égypte, je le vois aussi dans la maison de deuil. Je le vois frémissant de compassion devant une tombe. Je le vois dans une maison de festin de noces. Je le vois s'arrêtant sur les êtres humains, individuellement, seul à seul, un à un. Je voudrais vous inviter aujourd'hui dans la maison de noces de Cana. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 2. On relit ce texte de l'évangile bien connu en essayant d'en tirer pour chacun la leçon, la parole que Dieu nous donne. Car ce n'est pas des histoires qui sont dépourvues de sens. Il y a quelque chose à trouver pour nous aujourd'hui. Donc je fais la lecture, Jean chapitre 2. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, c'est-à-dire au maître de cérémonie. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait son vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Et moi aussi je crois en lui. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bien ou moins bien ? Est-ce que ça résonne ? Un peu ? Ça va ? Je vous le dis parce que c'est quand même une nouveauté pour nous. Quand l'église est pleine, quand l'église est moins pleine, ça dépend des périodes, des moments, et je ne sais pas comment vous m'entendez. Revenons à l'histoire de Cana, pas loin de Nazareth. Jésus devait connaître beaucoup de monde dans ce quartier. Et Jésus venait de choisir cinq compagnons, des disciples, des hommes qui étaient tout proches de lui et qui l'avaient certainement remarqué dans toutes ces années. Et ces hommes, il les a appelés et il les a envoyés, il va les envoyer dans le monde entier pour annoncer l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Ces hommes qu'il a choisis sont cinq pour l'instant, ne sont pas encore au complet. Ils ne sortent pas des grandes écoles, mais ils sont ouverts à l'amitié de Jésus, au merveilleux message du Christ. Et ce sont des gens de bonne volonté. Et en écoutant Jean-Baptiste qui leur disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ils ont suivi Jésus. Mais je suis quand même surpris que pour ces hommes qui allaient devenir beaucoup plus que des premiers ministres, il n'y a pas de formation, Ils vont bouleverser le monde, ils vont ouvrir le ciel, ils vont soulever des milliards d'êtres humains, ils vont être les reflets d'une histoire qui dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et ces hommes qui vont bouleverser l'univers, eh bien, ils n'ont pas de formation particulière, sinon leur cœur aimant, croyant, attachant. Je pensais que Jésus les aurait pris à part pour prier avec eux, pour partager. J'aurais vraiment pensé que Jésus les aurait emmenés dans le désert, comme Moïse, que Jésus leur aurait fait connaître les Écritures saintes, les psaumes, la Torah, la loi, les prophètes. Eh bien non. Savez-vous où Jésus les emmène pour leur formation ? D'apôtres dans une fête, une grande fête, parce qu'à cette époque les noces ça durait une semaine. Ils n'avaient pas des vacances comme nous, mais quand je mets bout à bout toutes les fêtes religieuses, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, Yom Kippour et les mariages, eh bien ils avaient bien 2 mois par an de vacances. Ils nous dépassent. Il les emmène dans cette fête où il y a des retrouvailles, des amis qu'on revoit, des beaux vêtements, des chants, des danses. Jésus met ses apôtres dans l'humanité. Parce que Dieu, il est plongé dans notre humanité, dans le bouillonnement, les souffrances, les pleurs. Jésus les emmène dans une leçon de vie. Il ne les met pas dans un monastère, il les met en plein eau. Et Jésus est aux noces aussi. J'ai toujours pensé que Jésus ne devait pas être triste. Et qu'il a été triste. Mais que Jésus ne devait pas rester tout seul, le visage fermé, arrivant à la noce au dernier moment, peut-être même en retard. Moi, Jésus à Cana, moi je le vois dans la joie, parce qu'il vient partager la joie, et la joie, quand ça se partage, ça se communique. Je vais même vous dire, je le vois chantant, parce qu'il est avec des gens qu'il aime, qu'il connaît, des gens pauvres, des gens fragiles, des gens isolés, des gens qui ne parlent pas, des gens qui savent peut-être plus où ils en sont. Aujourd'hui, comment vais-je prêcher cet évangile de Cana dans un monde où on ne se réjouit plus, à part avec les humoristes, les comiques? Mais aujourd'hui, on ne se réjouit plus. Les noces sont parfois tragiques, ne durent pas longtemps. Vous ne trouvez pas que cet évangile pourrait sonner un peu faux? Jésus qui vient aujourd'hui partager les joies des noces, alors que des centaines, des milliers de personnes se noient en Méditerranée, alors que des gens, des enfants sont écrasés sous les bombes. On a l'impression que cet évangile est en décalage par rapport à notre monde. Mais dans cet évangile, Jésus va faire un miracle. C'est surtout ça. Un miracle inouï, qui fait sourire. Il va changer l'eau en vin. Ça fait toujours sourire quand je dis ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas dit, mais presque dit, on aimerait bien que Jésus change l'eau en alcool. Ça fait sourire parce que tout ce qui sort de l'ordinaire, eh bien, on le met de côté. Mettons de côté l'incrédulité plutôt. Essayons de comprendre le sens, pourquoi Jésus a fait ce miracle. Il ne l'a fait qu'une fois. Si vous priez ce soir pour avoir du vin au lieu de l'eau, ça ne marchera pas. Que veut nous dire le Christ ? Eh bien, l'eau, mais content, tout le monde me dit, il y a du beau temps aujourd'hui, partout, c'est magnifique. L'eau pourrait représenter la vie quotidienne, sans couleur, sans goût, insaisissable, toujours pareil, la grisaille de l'existence, de l'eau. Pas d'odeur, rien. Vous ne trouvez pas que ça pourrait nous faire penser à la vie quotidienne, où on se lève, on se couche. Quand on est couché, on ne voudrait plus se lever. Et quand on est levé, on a peur de se coucher. La grisaille. Même la religion, même la foi, parfois semble ennuyeuse aux gens. On veut du contact avec les hommes, les êtres humains. On ne veut plus de contact avec Dieu. On veut du contact avec les vivants, mais on ne veut plus la vie. Et aujourd'hui, tout nous ennuie, à part les humoristes, pardonnez encore l'expression. Nous avons du mal à imaginer Jésus qui change la morosité quotidienne en joie. Pourtant, nous attendons tous un miracle de changement. Combien de gens attendent un changement? Je vais même vous dire que beaucoup changent leur appartement, leur voiture, parfois même de femme, changent de quartier, changent de pays, changent tout autour d'eux, d'ordinateur bien sûr et de portable. Ils oublient qu'une chose, ils ne se changent pas eux-mêmes. Les choses ne changent pas, vraiment la vie. C'est une présence qui change la vie, une relation. À Cana, allons aux noces, on y va? À Cana, Jésus va nous faire signe. Dans l'évangile de Jean, les miracles, on les appelle des signes, des signaux, des signalements. Et à travers cette eau de Cana, je crois que le Christ veut nous dire « Je peux vous transformer. Je peux mettre du sens dans votre vie. Je peux mettre une direction dans votre vie. Vous allez à droite, à gauche, vous ne savez pas où le chemin vous mène. Je peux vous donner un circuit balisé. Je peux mettre ma joie en vous, mon esprit en vous. Je peux éclairer vos yeux, vous élever. » C'est ça le message de Cana. Je peux vous changer. Moment de panique dans les cuisines. Crise à Cana. Un bruit circule de porte en porte. Il n'y a plus de vin. Moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas grave. Plus de vin. Mais pour ces deux familles, parce qu'il y a un mari et une femme, il y a un jeune homme et une jeune fille qui se sont mariés, bien sûr. Pour ces deux familles, c'est humiliant de ne pas avoir assez à donner aux invités. C'est comme si vous m'invitiez et puis au bout de trois bouchées, vous me dites, ben, on avait deux bouchées de pain, il n'y a plus de pain. C'est humiliant. Ils se sentent pauvres. Comme ça nous montre bien que nos joies ont des limites. Notre patience a des limites aussi. C'est ce que mon père me disait souvent. Ma patience a des limites. Tout sur la terre, nos forces, nos projets, tout a des limites. Notre vie a des limites. Alors il n'y a plus de vin, c'est désolant, c'est humiliant, parce que à l'époque, je vois bien qu'on savait quand même s'amuser, j'espère qu'il n'y avait pas l'alcotest à l'époque. Hein. Marie est là, mère de Jésus. Peut-être invité d'honneur, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être invité pour aider. Elle qui savait si bien dire « Je suis la servante du Seigneur ». Enfin, elle est là, Marie, et elle entend ce murmure « Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin ». Elle voit la confusion dans les cuisines, et elle a ce qu'on appelle une souffrance en elle, on appelle ça aujourd'hui l'empathie. Elle se met, dans la souffrance de ces mariés, de ces familles. Et elle va dire à Jésus, « Jésus, ils n'ont plus de vin. » Elle n'a jamais vu Jésus faire un miracle. C'est son premier miracle. Et en plus, Jésus ne semble pas prêt du tout à faire un miracle. Puisqu'il dira, « Mon heure n'est pas encore venue, c'est pas l'heure du Père, c'est pas l'heure pour moi de changer tout, de bouleverser tout. Tu as trop d'avance, Marie. » On sent qu'il n'est pas prêt. Et Marie ne tient pas compte des paroles de Jésus, son fils. Et elle va dire au cuisinier, « Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. » Comme si elle voulait dire, « S'il dit quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est vrai. S'il dit un mot, vous pouvez être certain qu'il va se passer quelque chose. » Nous, nous disons beaucoup de choses et il ne se passe rien. Elle savait que ce que Jésus disait était toujours pesé, calculé, mesuré, vrai, authentique. Écoutez-le et faites tout ce qu'il vous dira. Belle parole. Elle connaît son fils mieux que nous. Elle a confiance en lui. Elle connaît mieux que personne ce que Jésus a été. Ça, c'est un mystère pour moi. Qu'a-t-il fait pendant 30 ans? Pendant 30 ans, on ne le voit pas dans les évangiles à part un petit épisode à 12 ans. Mais Marie, elle a vu Jésus. Elle l'a vu avec les pauvres, elle l'a vu avec ses camarades, elle l'a vu avec les petits, avec les malades, les voisins. Elle le connaissait mieux que personne. Bien sûr, vous allez me dire, mais que veut dire Jésus quand il dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Est-ce que Jésus a voulu lui dire « C'est ta façon de voir, moi j'ai une autre façon de voir. » Vos pensées, dira le Seigneur dans l'Ancien Testament, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Qu'y a-t-il entre toi et moi? On n'a pas la même façon de voir les choses. Il n'est pas venu pour donner du vin aux hommes, mais pour donner la vie, la résurrection. Enfin, il dit quelque chose, remplissez d'eau ces vases, il faut le faire. S'il vous dit quelque chose aujourd'hui, faites-le, écoutez-le. Serrez sa parole en vous et ne la lâchez pas. Parce que sa parole, elle s'accomplira. Il a parlé, oui. Remplissez d'eau ces vases. Oui, il y avait des vases. On a mis un tout petit là, il est éclairé. Mais il y avait des vases qui servaient pour se laver les mains, pour se purifier, selon les rites juifs. Des grands vases, des vases de 100 litres chacun. Remplissez d'eau les 6 vases. 100 multiplié par 6, je te retiens, 600. Ça a dû demander du temps quand même pour remplir les vases d'eau, 600 litres, sans en renverser sur le parquet qui vient d'être posé. Ça a dû demander du temps et puis des forces pour vider l'eau. Et Jésus leur dit, maintenant vous allez montrer cette eau au maître d'hôtel. Parfois c'est difficile avec toi, Seigneur, parce que si on montre l'eau, on va se faire ridiculiser. Allez montrer l'eau, allez montrer au maître d'hôtel. Ça paraît insensé. Mais ce que Dieu fait, il faut que ça se voie. Mais Seigneur, il n'y a que de l'eau. Allez montrer l'eau quand même. Ils font confiance à Jésus. S'il dit un mot, le mot s'accomplira. Ce sont des gens simples, ce sont des gens comme le monde a besoin face aux défis de notre temps qui sont gravissimes, qui semblent préparer une haine mondiale, des conflits mondiaux. Nous ne voyons pas les changements, ils n'ont pas vu tout de suite l'eau changer, ça Je ne sais pas quand ça a changé, je ne sais pas comment ça a changé, je ne sais pas, je ne connais pas le miracle. Mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas dans ma vie, que je ne vois pas dans ma vie, mais j'en vois les conséquences. Eh bien, on va les montrer au maître d'hôtel. On va se faire passer pour des ridicules, mais enfin. Il n'y a plus de vin, puis on donne de l'eau. Et le maître d'hôtel a dû prendre son verre et il a goûté l'eau. Quel bon vin vous avez gardé, mes amis, pour la fin du repas? Quel bon vin vous avez gardé? Jésus se sert de la foi des simples et des humbles pour accomplir ses miracles. En venant à Jésus, on enlève ses chaussures, comme disait Moïse. On pose ses bagages, ses supériorités, ses... toute l'emphase de la vie. Et on dit, Seigneur, parle, je t'écoute. Je suis un être humain, je t'écoute. Et cette simplicité, cette humilité, cette douceur de ses serviteurs a permis le miracle. Mais dites donc, vous avez compris qu'il y avait 600 litres de vin pour finir le repas? Ce n'est pas recommandé aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous serions beaucoup plus prudents, vous ne trouvez pas? Mais enfin, je crois que le miracle, il n'est pas dans le vin. Il est dans de nous montrer que Dieu est un Dieu qui ne compte pas, qui nous aime à l'infini, qui est patient à l'infini, qui nous promet des choses tellement grandes, la surabondance. Il nous aime sans mesure. Il élargit nos cœurs pour y mettre beaucoup. Il se donne. Avez-vous quelque chose de plus grand que Dieu qui se donne? C'est l'abondance totale. Dieu se donne. On ne peut pas faire plus. Parfois, des gens me disent « Oh, le christianisme ne me suffit pas. Il me faut un bateau. Il me faut un avion. » Dieu se donne, mes amis. On ne peut pas faire plus. Il sort de lui. Il sort de son royaume immense, sans fin, sans commencement, sans limite. Et il vient jusqu'à notre pauvre maison, à notre cœur. Il se donne totalement à nous, individuellement. Quelle abondance! Eh bien, ils ont bu, ils ont mangé, puis ils ont continué à chanter les noces de Cana. Jésus nous a dit que le royaume de Dieu ressemble à un festin de noces. Dans un monde cassé, où on envoie des échanges de commerciaux avec des bombes atomiques, où l'on envoie des armes dans un pays déjà prêt à l'explosion, Jésus dit « Mon royaume est là, et mon royaume pour vous dans un monde où il y a tant de cancers, tant de dépressions, tant de suicides. Mon royaume, c'est comme un festin. C'est une grande joie. » Mais Jésus nous a dit dans l'Évangile qu'il a invité beaucoup de gens à ce grand festin de l'Évangile, du pardon, de la vie. Et les gens bien de la société ont refusé. Trop pris. Trop prisonnier, trop aveuglé, trop sourd. Le monde nous aveugle pour qu'on ne voie pas Dieu. Les petits détails nous crèvent les yeux pour qu'on ne voie pas la grandeur de Dieu. Alors le maître, je rappelle cette parabole, il a envoyé ses serviteurs sur tous les chemins, sur les places de la ville, pour aller chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles, tous ceux qui disent « qui nous donnera du bonheur ?» Parce que voyez-vous ces gens-là, ces gens qui peut-être, je ne dis pas qu'ils sont forcément pauvres physiquement, mais qui, de cœur, savent qu'ils ne sont pas méritants. Eh bien ces gens-là, estropiés par la vie, sont assoiffés de relations, de reconnaissance. Il court à l'invitation de Dieu. Tous ceux qui mettent tout dans la réussite humaine n'ont pas le temps de s'occuper de Dieu. Ils se voient eux avant de voir Dieu. Ils sont leur propre Dieu. Eh bien, c'est plus facile pour les cœurs simples, pour les cœurs pauvres, pour ceux qui disent « j'ai ça, mais c'est pas ma vie, j'ai autre chose ». Pour ceux qui disent « j'ai gagné ça, mais c'est pas ma vie, j'ai autre chose ». J'ai hérité de ça, mais le principal, c'est autre chose. Ces gens-là sont des pauvres, des gens qui attendent autre chose, qui sont disponibles, qui sont en attente de relations authentiques. C'est rare aujourd'hui. Ce sont des gens qui veulent recevoir. C'est ça les noces de Cana. On reçoit. On n'a pas tout. Il y a des limites à tout. Les noces de Cana représentent l'évangile de tous les temps. Une histoire d'amour comme des noces. Avec le oui de Dieu et le oui de la mariée, qui c'est vous. Et avec un deux grands oui, on peut faire des belles choses. Au Cana, Jésus nous dit « Je viens faire toute chose nouvelle, transformer les cassures de votre jeunesse blessée par un père, blessée par l'abandon d'un ami. Je viens ouvrir vos tombeaux où vous êtes enfermés dans la solitude, ne parlant même pas à vos parents, même pas à vos enfants. Je viens ouvrir vos tombeaux. » C'est ça l'Évangile. Je viens changer vos vieux vêtements qui se sont salis au cours des temps, où vous avez été habitués à la banalité du mal. Le mal devenait banal, c'était normal, c'était être vraiment dans le bon vent que de dire à sa mère des grossièretés. Je viens changer, dit Jésus, la banalité du mal. Je viens enlever le mal infiniment petit qui se cache en vous et qui bloque toute la vie. Parce que le mal, il n'y a pas besoin qu'il pèse des tonnes. Un petit grain de sable dans la machine arrête tout. Je viens enlever ce qui vous paraît banal. Parce que votre vie, elle repose sur une relation de vérité et d'amour. Les noces de Cana, c'est beau, non? Ça représente notre besoin d'aimer. Dans la noce, il y a quand même de l'amour. Notre besoin d'être aimé. Vous savez que notre soif d'amour est plus profonde que notre besoin d'efficacité. Aujourd'hui, dans les entreprises, c'est efficacité. Mais le plus grand besoin, c'est d'être aimé. Aujourd'hui, dans le monde, c'est posséder, avoir, gagner. Mais notre vrai besoin, c'est aimer, être aimé. Nous sommes tous des gens blessés dans notre affection. On a tous subi des coups dans la vie. On est blessé dans la capacité d'être en relation avec les autres, la capacité de faire confiance aux autres. Parce que peut-être un mari nous a complètement détruites, alors on n'a plus confiance. Alors nous n'avons rien qui tienne dans la vie. Ni les enfants, ni les parents, ni la femme, ni le mari, ni Dieu. On est enfermé dans une solitude immense, incapable vraiment d'exister. À Cana, Jésus dit « Laissez-moi vous changer. Laissez-moi transformer vos deuils en espérance, vos pleurs en joie, vos horizons fermés en chemin ouvert, mais j'ai besoin de vous. Puisez l'eau, cherchez l'eau. J'ai besoin de votre aide comme j'ai eu besoin des serviteurs de Cana qui ont rempli les vases à rabeur. Ils en ont mis jusqu'à la dernière goutte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ? J'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin de votre foi. Parce que pour que Dieu nous ajuste à lui, il n'y a qu'une chose qu'il demande. Une. Ce que Martin Luther avait redécouvert il y a 5 siècles. La foi. Confiance en Dieu. Le reste, ce n'est pas votre affaire. Dieu va le faire avec vous, pour vous. Et au cœur de la relation avec Dieu, là, je découvre en moi la fête, la joie. Ésaïe disait, la splendeur de Dieu se lèvera sur la terre. Alors les ténèbres partiront. La splendeur de Dieu se lèvera sur votre maison, mes amis. Nous nous trompons sur la foi chrétienne. Nous nous trompons sur le christianisme. Pour moi, le christianisme, c'est notre raison de vivre. On a été fait pour Jésus. Pour moi, le Christ, c'est notre seul horizon, notre seul pont, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Le message de Cana, c'est pour tous les temps. Les temps de guerre, je crois que je pourrais prêcher Cana. Ah, c'est facile à dire aujourd'hui, mais oui, je pourrais dire, si les bombes tombent, il y a toujours quelqu'un qui peut là nous secourir, nous aider, nous donner une raison d'exister, c'est le Christ. Dans les temps de paix, dans les temps de conflit, dans les temps de la jeunesse, je peux prêcher Cana. En fin de vie, je peux prêcher Cana. En fin de vie, je peux dire à ce petit monsieur qui s'en va, cette petite dame qui s'en va vers le royaume de Dieu, Dieu change votre vie en lumière, en résurrection. J'ai besoin de changement dans toute ma vie. Ce soir, j'en ai besoin. Demain, toujours. Cana, c'est une présence avec nous. Amen. Vous n'êtes pas seul. Cana, c'est une source qui jaillit sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu changes chaque journée de notre vie, afin que dans chaque journée nous voyions les rayons du soleil jusque dans nos profondeurs, jusque dans nos souffrances anciennes qui ne se sont jamais guéries. Mets la lumière de ton amour, mets la chaleur de ton amour, mets ta paix infinie dans nos tourments. Cana, l'eau changée, nos vies changées, le monde changé. Tu es venu pour apporter le plus grand changement. Le plus grand changement, c'est que l'homme te découvre pour devenir semblable à toi. Bénis chacun de nous dans cet après-midi. Et je veux te prier pour les malades qui ont besoin de changement et ceux qui sont dans la tristesse, dans la dépression, ceux qui sont inquiets sur leur avenir, ceux qui ne maîtrisent aucune situation dans la famille, dans le travail, avec leurs enfants. Je te prie pour eux. Montrez l'eau au maître d'hôtel. Je pense qu'il faut se montrer à Dieu. Et si vous voulez, pour conclure cette méditation qui est un appel, qui est une petite cloche qui retentit sur la montagne, quand il y a de la neige, il y a la cloche qui nous indique aux voyageurs le chemin. On va ensemble prier pour ceux qui ont besoin dans leur santé. Pour tous ceux qui sont au bord de la route et qui se disent « Personne ne me regarde, personne ne me parle, personne ne prend soin de moi. » Faites tout ce qu'il vous dira, disait Marie. Elle avait raison, mille fois raison. On va ensemble peut-être se lever pour ceux qui veulent, simplement, afin que je prie le Seigneur pour vous. Cana, c'est aujourd'hui. Ton Dieu, ton tendre Père, connaît tes désarrois. Tu manques de beaucoup de choses. Parce que tu as été créé avec des manques, justement, pour que tu puisses faire place à celui qui te donne tout, Jésus. Je prie le Seigneur. Que la bénédiction descende sur ces amis qui se sont levés. Tu connais, Seigneur, leur souffrance, l'inquiétude qui dans leur cœur bouleverse leur jour, leur nuit, leur sommeil, leur repos. Tu sais ce qu'ils attendent, tu sais ce qu'ils n'attendent plus. Tu sais là où ils ont travaillé dur et là où ils ne peuvent plus rien faire. Tu sais là où ils ont dit « Je n'ai plus de vie, je n'ai plus de force, ils n'ont plus de vin. » Touche-les, Seigneur, réconforte-les, garde-les, transforme leur tristesse en joie. Fais-les passer de la mort intérieure à la vie intérieure. Au nom du Seigneur, amen. Je vous invite à vous asseoir, mes amis. Le Seigneur vous a vu. Soyez attentifs à la parole du Seigneur. Le Seigneur veut nous parler chaque jour. Si nous prenons le temps de lire les Écritures saintes, je vais vous laisser chanter ce cantique très beau pour conclure. Pour la durée des temps. On pense parfois que les choses vont s'arrêter. C'est trop beau pour durer. Ça ne durera pas. Mais Dieu dure toujours. De siècle en siècle, on chante ce beau cantique.